Bonjour et bienvenue à l'émission Les Voix de Service Magazine, édition du 5 avril 2018. C'est Marie Lalande qui vous parle. Avec moi en studio, l'équipe complète du jeu.
Grosse équipe!
Monique Kirouac.
Bonjour Marie.
Bonjour. Yvan Deslauriers.
Oui,
bon retour, bon retour, chers collègues.
Merci. On est heureux.
Mais j'avais pas dit ça, moi. J'avais dit qu'ils sont quelque part.
Oui, c'est ça. Nous étions quelque part. Alors, Mathieu Tessier en régie. Bonjour, Mathieu.
Bon matin.
Alors, chers collaborateurs, qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui?
Moi, je commence par une histoire. Une histoire qui parle de basketball, d'activité physique, évidemment. Mais aussi de décrochage. Ça, c'est la première histoire. La deuxième histoire, ben, étant donné la température, je vous parle de ski.
Ah oh oui, Seigneur, il fait tellement froid aujourd'hui.
Oui, mais essayez de faire du ski puis pas voir la pente.
Okay. D'accord.
Oui, d'accord. Ça. Et Monique?
Mais moi, c'est moins chaleureux. le premier article, je vous parle de cybersécurité. Oh. Alors, les dangers que l'on court et les conseils que l'on pourrait, que l'on devrait suivre pour se protéger. Un deuxième article sur la calvitie. Alors, les recherches en cours pour éventuellement la prévenir, la contrer. En fait, on se protège de tout, la cybersécurité et la calvitie. Et en complément, un petit texte qui nous révèle, en fait, si une personne qui a froid attrape le rhume.
Ah oui, bon Dieu, comme nos grands-mères nous disaient.
Voilà.
Prends pas froid, tu vas attraper le rhume.
C'est ça, exactement.
Et, alors, on a hâte de tout connaître là-dessus. De mon côté, je vais vous présenter deux recherches intéressantes faites auprès d'un tout petit bassin de population. Et alors, je vous dirai en temps et lieu tout à l'heure de quoi ça parle. Et je vais vous parler aussi, après la pause, de croque-livre sur la rive sud de Montréal. Alors, j'espère que je suscite votre intérêt.
Mm-hmm.
Voilà, c'est parti! Alors, Yvan, on parle de basket et de décrochage.
Oui, c'est dans une chronique écrite par Mylène Moisan dans Le Soleil. On l'aime, Mylène.
On l'aime, Mylène.
Le 26 mars 2018.
Il
oui, il n'y a pas eu une chanson là-dessus. Enfin, c'est intitulé « Le diplôme et la médaille ». Pas d'effort à l'école, pas de basket. Simple de même. On réfléchit beaucoup à l'école ces temps-ci. On va voir ailleurs ce qui se fait. On a même mis un architecte et un cuisinier sur le dossier. On peut même dire un sportif.
Oui, bien sûr, c'est un trio, hein.
À l'école secondaire de Vanier, qui était une des pires de la ville de Québec, on a mis les entraîneurs dans le coup. On s'est arrêté 2 minutes. On a bien vu que ce qui tenait les jeunes, souvent, c'était le sport. On s'est dit qu'on allait se servir du sport pour que les jeunes se prennent en main. Le programme, le diplôme avant la médaille, DAM, pour les intimes, en est à sa 6e année. Le taux de décrochage est passé de 54 %, donc il y a plus que la moitié des élèves qui décrochaient, à 27 %.
Wow.
Donc, on est passé de la demi au quart. C'est assez spectaculaire. Oui. Thierry Caïtana a entraîné l'an dernier l'équipe de basketball des filles de 2e et 3e secondaire. Il s'est retrouvé devant 10 élèves qui avaient juste le goût d'être ailleurs sans trop savoir où. Du lot, 4 parlaient très peu le français, pas assez pour comprendre Thierry. Et la majorité était en situation d'échec. Au début, quand je suis arrivé, elle me traitait un peu comme un suppléant. Elle confrontait mon autorité, elle me testait. Je m'attendais à ça. Je devais faire une équipe avec elle. Ça n'allait pas être facile. Il avait 6 mois pour y arriver, à raison de 2 séances d'entraînement et 1 match par semaine. Il a dû parfois hausser le ton et se faire respecter. J'avais lu une entrevue de Glenn Constantin. Glenn Constantin, c'est toujours l'instructeur de l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université Laval, qui a gagné plusieurs championnats universitaires. Il disait qu'un coach doit accepter de ne pas être aimé, que son but est d'être respecté. Ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prend pas des décisions pour être cool, mais en pensant à l'équipe. J'insistais beaucoup sur la ponctualité, le langage et la politesse. Ce n'était pas très populaire, mais essentiel. Il a dû, surtout, créer une chimie qui n'existait pas. Il y a eu des clashs entre certaines filles. Il y en a qui sont venues me voir pour me dire qu'elles voulaient abandonner, qu'elles n'arrivaient pas à sentir une telle. Je leur disais, va au moins jusqu'au bout de la saison et tu verras après. Si au moins on gagnait des matchs, se disait Thierry. Et à un moment donné, ça a fait comme dans les films. Les filles en ont gagné un. Et un autre. Le vent a tourné autour de la fin février, début mars. Les filles étaient plus disciplinées, leur attitude a changé. Il y a eu plein de petits miracles sur le terrain. Elles avaient l'impression de faire partie de quelque chose. Elles ont développé un sentiment d'appartenance. Et c'est là le pari du DAM. Leurs notes ont monté. Elles ont travaillé plus fort avec leur tuteur pour avoir plus de temps de jeu. Il faut qu'elles fassent signer leurs travaux par les profs et le cahier de suivi par les tuteurs. Si, par exemple, tu as vu un prof, tu joues un quart du match. Si tu as vu tous les profs, tu joues tout le match.
Oh, okay. Quelle idée géniale! Mm-hmm.
Si tu ne vas pas à la rencontre avec le tuteur, tu joues pas.
Okay.
C'est hyper renforcé. Les jeunes le faisaient. Elles avaient envie de jouer. Thierry n'était pas juste un coach. J'avais accès au dossier des élèves. J'ai même participé aux rencontres des parents avec les professeurs. Je sentais que je faisais partie de la solution. Des 10 filles un peu perdues du début, certaines se sont métamorphosées. J'ai vu des transformations incroyables. Il y a une fille qui était vraiment introvertie. Elle est devenue ouverte aux autres, articulée, confiante en elle. J'ai bon espoir que plusieurs des filles que j'ai coachées vont avoir leur diplôme d'études secondaires. Ce sera leur vraie victoire. Thierry est bien placé pour comprendre. Né au Burundi en 1983 de parents qui ont fui la guerre du Rwanda, le petit Thierry est arrivé à Québec à 3 ans. J'ai grandi dans les HLM de Bardi. Je ne viens pas de Québec, je ne sais pas exactement où est-ce que c'est. J'ai appris à jouer au basket à 5 ou 6 ans. J'étais le petit gars sur le bord du terrain. Je jouais avec des adultes. Le basket était le centre de mon univers. Pas l'école. Je n'avais pas la tête à étudier. J'étais toujours dans la lune. Je n'avais pas des super bonnes notes, surtout au secondaire. Quand ça allait mal à l'école, mon coach me disait d'aller chercher de l'aide, mais je n'y allais pas. Je ne pensais qu'à mes performances sportives, pas à mon avenir. Il ne savait pas alors que l'avenir peut être aussi brillant qu'une médaille. Alors, c'était l'article de Mylène Moisan qu'on peut trouver dans Le Soleil le 26 mars 2018, le diplôme et la médaille.
Merci. Alors, Monique, on va tout savoir sur la cybersécurité.
Presque tout.
Presque tout.
Oui, presque tout.
Allons-y.
Alors, c'est un dossier qui a été préparé par Arnaud de Villard pour la revue Science et Avenir de février 2018. Et l'article s'intitule « Face aux menaces, cyber, menaces, les bonnes pratiques ».
OK.
Alors, c'est une revue française, donc certaines associations sont françaises.
Oui.
Dont l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, qui le dit, en matière de sécurité informatique, le maillon faible est autant un élément matériel ou un réseau mal configuré que nous-mêmes.
Mm-hmm.
Attention! Mm-hmm. Si les cyberdélinquants ne cessent de passer au crible toutes les failles exploitables, la multiplication des usages et surtout, notre imprudence leur offre en effet d'innombrables moyens de diffuser des éléments malveillants appelés malware. Accéder à nos données sensibles ou à celles des entreprises, comme les comptes bancaires, les mots de passe, les fichiers clients, etc., pour les exploiter, les revendre ou encore exiger une rançon avant restitution.
Mmh.
Et les virus qui transitaient auparavant par les ordinateurs passent désormais aussi par nos téléphones mobiles, que ce soit à travers les SMS, l'accès à l'Internet ou des applications piégées. Pour se protéger, le minimum consiste déjà à installer un antivirus sur les ordinateurs, y compris s'il s'agit d'un Mac d'Apple réputé moins attaqué que les PC.
Vraiment?
Oui. D'accord. Mais cela ne saurait suffire. Je vais vous présenter un inventaire de risques. Mm-hmm. Donc, ce qui se passe et, comme je disais, des conseils sur ce que nous devrions faire. Mm-hmm. Alors, se méfier, alors je dirais des courriels, même si dans le texte, c'est écrit des emails et des SMS.
Oui.
D'accord?
Oui.
Le courriel reste le vecteur de diffusion de 98 % des attaques parce que c'est le moins cher. Excusez-moi.
Donc, l'idée, c'est de ne pas ouvrir.
Ben, je vais vous décrire. Les cyberdélinquants récupèrent d'abord souvent en la dérobant des listes d'adresses de messagerie et procèdent ensuite à des envois en masse. Ainsi, un expert en sécurité a découvert, en août 2017, l'existence d'un robot programmé pour envoyer un lien Internet piégé à 711 millions d'adresses courriels volées. Ces attaques sont protéiformes. Le courriel ou le SMS piégé peut contenir un fichier attaché, à télécharger ou un lien Internet sur lequel nous sommes invités à cliquer, déclenchant ainsi l'installation d'un logiciel malveillant. Ou alors, le message prend l'apparence d'un organisme officiel, établissement bancaire, service des impôts, pour faire du hameçonnage et nous amener à fournir des données personnelles comme identité bancaire, mot de passe. Alors, le conseil. La meilleure des protections tient souvent au bon sens et à un minimum de vigilance. Ne jamais cliquer sur des liens ou des fichiers émanant d'expéditeurs que vous ne connaissez pas ou sans en avoir vérifié l'origine, même s'il semble émaner d'organismes officiels.
Mm-hmm.
Ne jamais ouvrir un fichier dont le nom a pour extension .vbs, .shs ou .jbs. Et se méfier des messages contenant des fautes d'orthographe ou de syntaxe ou encore rédigés en langue étrangère.
Mm-hmm.
Si on reçoit, par exemple, un courriel en anglais de notre institution bancaire alors qu'on est francophone, en fait, on est avantagé par aux anglophones
oui.
parce qu'on ne devrait jamais les ouvrir. Mm-hmm. Ils connaissent notre langue
de préférence.
De préférence, ouais. Voilà. Donc, et aussi, il ne faut jamais envoyer d'informations sensibles comme ses coordonnées bancaires ou des mots de passe à partir d'un courriel. Deuxième défi, élaborer un mot de passe sécurisé. De la messagerie électronique au site de commerce électronique, établissement bancaire, autres comptes réseaux sociaux ou, enfin, tout ce oui. qu'on a à gérer, chacun, en fait, d'entre nous devra bientôt gérer une centaine de mots de passe.
Oui.
Hein? C'est l'enfer.
Oui. C'est le défi. Oui.
Il est dès lors tentant de se servir du même pour plusieurs services ou d'en forger de très simples pour mieux les mémoriser.
Mm-hmm. Bien, gardons ça.
Erreur! Les cyberdélinquants disposent de logiciels spécialisés pour produire des combinaisons de caractères qui testent à la volée sur les sites jusqu'à ce que certains fonctionnent. Quant à s'en remettre à un logiciel gestionnaire de mots de passe, les experts en sécurité mettent en garde. Ces services, souvent payants, consistent en effet à stocker tous nos mots de passe sur un serveur distant, par exemple dans le cloud,
dans le nuage, hein,
dans le nuage, protégé par un seul mot de passe.
Ouais.
Donc, le conseil, comment faire en fait pour créer des mots de passe robustes? Parmi ceux-ci, choisir un mot de passe unique pour chaque service. Combiner lettres, chiffres, capitales, en fait majuscules, mm-hmm. minuscules, ponctuation et caractères spéciaux.
Ouais.
Ne jamais cocher la case « Rester connecté mm-hmm. » lors d'une connexion à un espace privé. Oui.
Est-ce que ça dit, quand on fait la liste de tous ces mots de passe, comment qu'on s'en souvient?
Mais il faut que tu aies des codes, okay. Je pense.
Oui,
mais là, on s'en parlera, pardon. Ensuite, on a à être prudent avec les clés USB. Brancher une clé USB à un ordinateur étant devenu un geste très courant, c'est un bon moyen de diffuser des virus. Le programme malveillant a pu être installé à dessein sur la clé ou celle-ci a pu être infectée après avoir été connectée à un ordinateur compromis. Donc, le conseil, c'est une précaution indispensable. Ne jamais connecter à son ordinateur une clé USB dont on ne connaît pas l'origine. Il est aussi possible d'utiliser de petits logiciels nettoyeurs de clés USB comme USB Fix, pardon, ou d'activer des fonctions permettant au logiciel antivirus d'installer sur l'ordinateur de scanner la clé. Autre élément, ignorer le Wi-Fi ouvert. Surfer sur Internet par l'intermédiaire d'une connexion Wi-Fi ouverte, c'est-à-dire gratuite et sans mot de passe à saisir, est tentant dans les lieux publics. Par exemple, dans les gares, les aéroports. Mais c'est une très mauvaise idée. En fait, ça va dépendre, je vais le nuancer tout à l'heure, de ce qu'on consulte. Puisqu'aucun système de chiffrement n'est en place, un cyberdélinquant peut avoir accès à toute l'activité de l'ordinateur ou du téléphone connecté. Les sites web visités, les messages, les informations confidentielles, tout ça est rendu accessible lorsqu'on est dans un système ouvert. Excusez-moi. Donc, le conseil, il ne faut jamais se connecter à un point d'accès Wi-Fi ouvert, quel qu'il soit. Dans la pratique, comme je disais, ça dépend des usages. Si c'est seulement naviguer sur Internet, ça ne pose pas un problème. Mais il est vraiment déconseillé de consulter son compte bancaire en ligne, d'avoir des échanges professionnels et confidentiels par sa boîte courriel. Alors, je m'arrêterai là parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus techniques. Je vous les donnerai peut-être en bref. C'était une partie du dossier,
c'est vraiment intéressant.
Préparé par Arnaud Devillard pour la revue Science et Avenir de février 2018.
Merci, Monique.
Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? L'homme et la femme sont faits pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clés sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice, je veux goûter aux délices. Oh, oh, oh. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah! L'homme et la femme sont faits pour faire l'amour. Et comme je suis un homme et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonnette de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes toute la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma langue de ma poche, trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire de l'effet, donne-moi le code secret. Oh, oh, oh. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah!
C'était Damien Robitaille et sa chanson « Mot de passe ».
Merci Mathieu, tout à fait approprié. Alors, je vous parle donc de deux recherches, pas des petites recherches, mais des recherches qui ont un bassin de population qui est tout petit, mais qui sont fort intéressantes. La première, le titre de l'article, c'est « Trop de lumière pourrait nuire au sommeil des enfants ». C'est un texte de Marie-Claude Ouellette de l'agence Science Presse, publié sur le site Naître et Grandir le 21 mars. Il a déjà été montré chez les adultes que l'exposition à une très forte lumière en soirée réduisait la production de mélatonine, une hormone du cerveau qui favorise le sommeil. Mm-hmm. Or, cet effet serait encore plus marqué chez les enfants, selon une petite étude préliminaire américaine. Les résultats suggèrent qu'une exposition d'une heure à une lumière vive avant l'heure du coucher entraînerait une réduction de 88% de la production de mélatonine chez les enfants étudiés. Cet effet perdurerait au moins 50 minutes après que la lumière a été éteinte. Mmh. C'est considérable.
Oui.
En comparant ces résultats à ceux d'études menées chez les adultes, les chercheurs estiment que les tout-petits pourraient être plus sensibles à l'exposition à la lumière en raison de la structure de leurs yeux. Comme les tout-petits ont de plus grandes pupilles et des cristallins plus transparents que les adultes, leur rétine reçoit davantage de lumière. Or, une lumière forte réduit la sécrétion de mélatonine, ce qui retarde le sommeil. Les chercheurs sont même d'avis que l'exposition à une lumière forte avant le coucher pourrait engendrer des problèmes chroniques d'endormissement chez les enfants en raison d'une perturbation de leur horloge biologique. Par conséquent, ils recommandent aux parents de baisser les lumières au moins une heure avant le coucher. Cette étude a été menée auprès de 10 enfants. Donc, c'est vraiment pas beaucoup.
Oui, l'échantillonnage est plutôt limité.
Âgés de 3 à 5 ans. Vous étiez prévenus.
Oui,
déterminer l'effet de la lumière sur la production de mélatonine, les tout-petits ont dessiné ou joué sur une table lumineuse, dont l'intensité était comparable à celle d'une pièce bien éclairée. Leur niveau de mélatonine a été évalué à différents moments en prélevant des échantillons de salive. Cette recherche serait la première à se pencher sur l'impact sur la sécrétion de mélatonine chez les enfants d'âge préscolaire. Pour mieux comprendre l'effet de la lumière sur le sommeil des enfants, les auteurs de cette étude ont amorcé une nouvelle recherche sur 90 enfants, donc c'est déjà mieux comme échantillon, qui seront exposés à différentes intensités lumineuses. Alors, il faut poursuivre les recherches dans ce domaine-là.
Ça serait une bonne idée.
Mais je voulais vous en parler, je trouvais ça intéressant.
Oui, mais c'est intéressant aussi de voir comment la salive est importante, nous révèle plein de choses.
Exactement.
Hein? On avait vu le cortisol qui est qui signale le stress.
Oui, et la mélatonine.
La mélatonine, voilà. Et le sommeil.
Voilà. Et on va vers une autre recherche avec un petit bassin de population. Et je trouvais que c'était intéressant aussi, les chiens d'assistance de la Fondation Mira en soutien aux adolescents ayant un TSA, donc un trouble du spectre de l'autisme. C'est un texte d'Anne-Isabelle Lévesque, publié sur le site du Réseau d'information pour la réussite éducative, le RIRE, le 27 mars dernier. Selon Manon Noiseux, qui a publié en 2014, le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, est le handicap qui prévaut actuellement en milieu scolaire. Toutefois, de nombreux intervenants sont d'avis que l'on doit optimiser les pratiques d'intervention auprès des jeunes afin de favoriser leur insertion et leur participation sociale. Au Québec, peu d'études ont porté jusqu'ici sur les adolescents qui ont un TSA. Aurélie Tremblay, étudiante à l'Université de Montréal, s'est intéressée à ce sujet dans le cadre de sa maîtrise en sciences de l'éducation. Elle a étudié le vécu, et là tenez-vous bien, de deux adolescents ayant un TSA, en contexte scolaire et familial relativement à l'apport sur le plan humain de la présence d'un chien guide de la Fondation Mira. Elle a, Mme Tremblay, privilégié l'étude de deux cas, le premier un adolescent de 17 ans ayant un chien d'assistance depuis 6 ans, et une adolescente de 14 ans ayant un chien d'assistance depuis 2 ans. Elle a utilisé divers outils de collecte de données auprès de ces deux adolescents et de leurs proches, les parents, les enseignants titulaires et les techniciens en éducation spécialisée. D'abord, des entretiens semi-dirigés, des observations et les journaux de bord des adolescents et le sien, celui de la chercheure. Les résultats, donc, selon le modèle de développement humain, processus de production du handicap, c'est le MDH-PPH. Le fait d'utiliser un chien d'assistance comme outil d'intervention pour les adolescents ayant un TSA a une influence positive sur certains facteurs personnels et environnementaux, favorisant ainsi une meilleure participation sociale de la part des adolescents, semble agir principalement sur les symptômes, les troubles fréquemment associés et sur les caractéristiques communes au handicap de TSA et représente un apport important pour l'entourage des adolescents. La présence de l'animal à l'école peut atténuer certains facteurs anxiogènes et donc favoriser les apprentissages des adolescents ayant un TSA. Les principales conclusions de la chercheure, donc la présence du chien d'assistance renforce les aptitudes des adolescents ayant un TSA, ça permet ainsi une meilleure réalisation des habitudes de vie, ça diminue les obstacles potentiels auxquels ces adolescents doivent parfois faire face dans leur environnement, ça donne un aspect visible au handicap des adolescents ayant un TSA, ce qui aide à positionner réalistement les attentes sociales envers eux. Et finalement, ça influence positivement plusieurs éléments propres au TSA, ce qui permet à la famille et aux intervenants scolaires de travailler d'autres éléments auprès des adolescents concernés. Voilà pour cette petite recherche, mais non moins utile.
Minuscule recherche,
mais non moins utile, avouons-le. Oui, oui. Alors, restez avec nous pour la suite de l'émission. Après la pause, on vous parle de calvitie, de froid, du rhume, de croque-livre et du programme de ski alpin de la Fondation des aveugles du Québec. Au plaisir, à tout à l'heure.
Thank you.
Dans la catégorie des chansons trop courtes, je te prends par les cheveux de Martin Léon.
Et donc, ça nous met sur cette note d'espoir pour les gens qui sont atteints de calvitie.
Franchement, espoir.
Tous les auditeurs savent que Mathieu a beaucoup de cheveux.
Oui.
Il y a entre autres une rosette.
Il se peigne avec une débarbouillette.
Oui, c'est ça.
J'ai souvent dit que je n'ai pas de cheveux, j'ai une rosette.
Oui, on a bien retenu.
En fait, comme si c'était un problème, calvitie, ce n'est pas un problème.
En fait, ça dépend comment on se positionne. Oui. Hein. C'est donc le premier de deux articles, parce qu'il est un petit peu court. Donc, c'est sous la plume d'Alain Labelle pour le site Info Radio-Canada du mardi 6 février. Donc, vous voyez que j'ai hésité à le lire, mais finalement, je me suis dit pourquoi pas, puisqu'il s'intitule « Nouvel espoir d'un traitement contre la calvitie ». La mise au point d'une technique de culture très rapide de follicules capillaires par des scientifiques japonais relance l'optimisme dans la création d'un traitement efficace contre l'alopécie androgénétique,
ou là,
communément appelée calvitie. Ce nouveau traitement pourrait aussi remédier aux pertes de cheveux dues à la chimiothérapie ou à certaines maladies.
Ah oui?
Notre méthode est simple et prometteuse, nous dit Junji Fukuda, professeur à l'Université nationale de Yokohama.
Je pensais que c'était Pyeongchang.
Non, c'est le mot le plus facile, celui-là. Alors, environ 25 à 30 % des hommes présentent des signes de calvitie au début de la trentaine. La moitié d'entre eux auront une perte importante des cheveux à 50 ans. De nombreuses équipes de recherche tentent depuis des décennies de trouver une solution à la perte des cheveux. La thérapie régénératrice du cheveu humain est l'un des champs de recherche les plus prometteurs. Cette thérapie consiste en gros à régénérer les follicules pileux, les petits organes qui permettent aux cheveux de pousser et de se soutenir. On imagine là le petit cheveu avec le petit sac au bout. Là,
du petit.
Oui. Le plus important obstacle que doivent surmonter les chercheurs dans ce champ de recherche est la préparation à grande échelle d'agrégations cellulaires connues sous le nom de germes de follicules pileux. Ces germes sont en quelque sorte l'endroit où naissent et se développent les cheveux. Dans ces travaux, l'équipe japonaise a réussi à cultiver en laboratoire jusqu'à 5000 de ces germes simultanément en quelques jours. Mieux, une fois transplantés chez les souris, il a été possible d'observer la croissance de cheveux. C'est beaucoup mieux que les techniques existantes qui parviennent à créer une cinquantaine de ces germes à la fois. Donc, on comprend que c'est la quantité de ces germes qui assure un certain succès. Donc, elle a ensuite évalué la faisabilité de sa méthode sur des souris. L'expérience a été concluante. Une génération de cheveux noirs est apparue au niveau du dos et du cuir chevelu des rongeurs. Les poils régénérés présentaient le cycle capillaire typique des poils murins, c'est-à-dire ce qui est relatif aux souris. Des tests sur des humains ne sont pas envisagés avant 5 ans et un traitement pourrait voir le jour d'ici 10 ans. Donc, il faut vraiment garder espoir et être patient, c'est ça. À l'heure actuelle, des traitements médicaux peuvent ralentir la chute des cheveux, mais ils ne parviennent pas à inverser le processus. Le détail de ces travaux est publié dans la revue Biomaterials. Également, toujours sur le plan des recherches, on recense les percées suivantes. En 2006, le processus moléculaire permettant à des cellules embryonnaires de devenir des cellules capillaires a été identifié par des chercheurs britanniques. Une première mutation génétique associée à la calvitie a été mise au jour en 2008. Et en mars 2012, le dermatologue George Kotsarelis et ses collègues de l'Université de la Pennsylvanie ont mis en lumière le rôle d'une certaine protéine, la prostaglandine D synthétase, dans la perte des cheveux. Alors, probablement qu'on peut voir certains médicaments, que je mets entre guillemets, contenant cette protéine-là. Ne perdons pas espoir, donc, car les recherches vont bon train.
Ne nous arrachons pas les cheveux sur la tête.
Mais justement, en complément, le saviez-vous? Un humain possède en moyenne 100 000 cheveux.
Quand même?
Quand même. Il perd normalement, écoute bien Mathieu, 50 à 100 cheveux, tu pourrais perdre ta rosette, avec des pointes atteignant 175 durant les changements de saison. Donc, on n'a pas à paniquer quand on voit les cheveux tomber en changement de saison.
On mue quand même.
Oui, c'est ça. Et une chute de cheveux est considérée comme anormale lorsqu'une personne perd plus de 150 cheveux par jour pendant une assez longue période, pouvant aller jusqu'à 2 mois. Alors,
soupir, Mathieu.
Oui, c'était un article d'Alain Lebel pour le site Info Radio Canada du mardi 6 février 2018. Pardon. Alors, un court petit texte. En fait, c'est des propos colligés par Anne Prigent dans la revue Science et Avenir auprès de Maël Lemoine, qui est un philosophe des sciences médicales. Alors, on pense, hein, la croyance populaire dit « le froid aurait un lien direct avec le rhume ». Ben, cette hypothèse est en effet très répandue sur la planète, mais elle est fausse.
Bon.
Lorsqu'au milieu du 20e siècle, la cause virale du rhume a été découverte, les chercheurs ont mené des expériences pour vérifier si le froid pouvait avoir une influence. Et les résultats ont été très clairs. Il n'existe pas de lien entre froid et rhume. Mettez quelqu'un dans une chambre frigorifique, en sous-vêtements, il n'attrapera pas de rhume, pas plus de rhume qu'un autre. Se couvrir ne sert à rien pour se protéger du rhume.
Bon.
Ben pourquoi alors s'enrhume-t-on plus fréquemment en hiver, vous demandez-vous,
bonne question.
Probablement.
Tout à fait.
Hein?
Mais je savais que tu allais le dire.
Pour deux raisons. Tout d'abord, par temps froid, nous vivons dans des espaces fermés. Étant alors plus étroitement en contact les uns avec les autres, nous nous transmettons plus facilement nos virus. Ensuite, la rentrée des classes a lieu en septembre. Et c'est à partir de cette date que les infections des voies aériennes supérieures, respiratoires probablement, augmente et que les températures baissent et que donc les virus circulent et que nous attrapons.
Donc, c'est la promiscuité et les espaces fermés.
Exactement. Donc,
ouvrez cette porte immédiatement.
Voilà. Il faut donc répandre cette bonne nouvelle que le froid n'a pas d'adéquation avec le rhume, n'est-ce pas?
Bon! Alors, je vous lis maintenant un texte de Franck Junior Roddy qui a été publié sur le site lesversants.com le 17 mars dernier. Alors, c'est le journal local des municipalités de la Rive-Sud de Montréal. Donc, c'est un article qui va intéresser davantage peut-être les auditeurs de cette région-là. Mais rassurez-vous, cette contagion monstre qui nous parle de croque-livre sur la Rive-Sud de Montréal, il y en a partout, des croque-livres, même à Montréal et partout au Québec. Est-ce que vous connaissez les croque-livres? Mathieu, oui?
J'ai entendu parler, oui.
Pour moi, non.
Alors, il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas ça, d'un réseau de partage de bouquins destinés aux jeunes enfants. Les livres, eux, sont confinés, bien à l'abri, dans de drôles de petites boîtes colorées qu'on appelle les croque-livres. Lancés par la Fondation Lucie et André Chagnon, le concept du croque-livre prolifère à travers le Québec depuis septembre 2014. On en trouve actuellement près de 1600, selon le coordonnateur aux opérations de naître et grandir qui existe à cause de la Fondation Lucie et André Chagnon. Alors, on parle de Steve Fontaine, qui est ce coordonnateur. Il y a 3 croque-livres à Saint-Bruno, donc 2 à l'Académie des Sacré-Cœur, 1 à Saint-Basile, au CPE Plaisir d'enfant, 3 à Sainte-Julie, notamment au CPE Julie Soleil. Mais en réalité, il y en a bien davantage. C'est le défi qu'ils ont à cette organisation-là, c'est de noter les inscriptions des propriétaires de croque-livres sur leur carte. Les gens le font, s'inscrire sur une base volontaire. Alors, on les encourage à signaler leur croque-livre, notamment pour les donateurs de livres. À Saint-Bruno-de-Montarville, il y a quelques croque-livres, dont celui que gère la division de la vie communautaire de la ville. Il est situé au centre communautaire depuis novembre 2015, dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant. Celui-ci remporte un vif succès, affirme la directrice des communications de Saint-Bruno, Suzanne Leblanc. Elle invite d'ailleurs tous les Montarvillois à l'utiliser, Ces derniers doivent cependant laisser un livre en échange de celui qu'ils emportent. Sandra Lavoie de la garderie Chouette propose une boîte Chouette depuis l'été 2016. C'est grâce à un groupe de partage d'idées sur Facebook qu'elle a connu le concept. Et elle dit « J'ai été emballée par l'idée, j'ai partagé le projet avec mon conjoint afin qu'il m'aide. Les livres ont toujours pris une place importante dans ma vie et je souhaite transmettre l'amour des livres aux enfants. Comme nous sommes 4 services de garde en milieu familial sur notre rue, il y a plusieurs familles avec de jeunes enfants dans le quartier et la dame s'est dit qu'ils pourraient faire une rotation de livres entre eux grâce à la boîte. Et elle se dit vraiment surprise de son succès parce que des gens viennent en voiture avec leurs enfants pour se stationner devant chez elle. Ils sortent de la voiture avec des livres à déposer dans la boîte et ils en prennent d'autres en échange. À Sainte-Julie, le programme Croque-Livre n'existe pas, ce qui n'a pas empêché quelques boîtes de pousser sur le territoire grâce à un projet mené par la bibliothèque municipale. Les boîtes sont alimentées régulièrement par les employés de la bibliothèque. La coordonnatrice du service des communications en relation avec les citoyens de la ville, Mme Martin, qui explique que de juin à septembre, les boîtes à livres identifiées au nom de la bibliothèque sont installées dans les parcs. Jules Choquet et Edmour J. Harvey, ainsi que près de la piscine intérieure du parc N.P. Lapierre. Madame Martin ajoute qu'elles sont alimentées régulièrement. Les citoyens sont invités à y prendre un livre gratuitement et sans inscription en échange de l'un des leurs en bon état. Les croque-livres sont nombreux sur les territoires de Saint-Basile-le-Grand. Le site Internet de la municipalité indique qu'il y a une de ces petites boîtes de bois colorées au Centre civique Bernard Gagnon durant la période estivale et à l'aréna Jean Rougeau de septembre à juin. Une autre a été placée au Centre communautaire Lise-Boisvert. Une troisième est située au Parc des Trinitaires. Il est à noter qu'une somme d'un peu plus de 225 $ que pour une somme d'un peu plus de 225 $ il est possible d'acheter un croque-livre vide et de le commander et de l'assembler à la maison. C'est ce que le CPE Les Mousses du Mont a effectué il y a environ un an. Depuis, un croque-livre est disposé dans le corridor de l'installation Rose des Vents à Saint-Bruno et les enfants se servent en suivant la procédure. Prends un livre, remets un livre. Depuis 2 ans, la directrice Sonia Primo-Langlois propose aussi un croque-livre aux enfants à l'installation La Brise à Saint-Basile. Par contre, celui-là est un croque-livre fait maison dans lequel les albums ne s'empilaient pas très bien. Et ce qu'elle dit, c'est assez amusant. Ben moi, je trouve ça drôle. Les 18 mois se penchaient pour prendre un livre et tombaient presque à la renverse, raconte-t-elle. Grâce à une belle collaboration des parents qui donnent des volumes au CPE, Sonia a décidé de poursuivre ce projet communautaire. Aujourd'hui, elle met plutôt en place une petite bibliothèque qui sert de présentoir pour les bouquins. C'est plus intéressant pour les petits qui évitent donc de tomber dedans. Sachez qu'il est également possible de parrainer un croque-livre. C'est ce que l'animateur Jean-François Barry de Saint-Bruno a fait. Il parraine le croque-livre de la maison de la famille La Parentraide de Saint-Hubert depuis octobre 2014. Donc, l'initiative des croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres destinées aux jeunes de 0 à 12 ans du Québec, adoptées et prises en charge par des organismes, des institutions, des entreprises ou encore des individus. Les croque-livres sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leurs familles un libre accès à des livres partagés. C'est parrainé par la Fondation Lucie et André Chagnon. Voilà, Jean de la Rive-Sud, réjouissez-vous.
Quelle belle initiative!
Alors, Monsieur Deslauriers, parlons maintenant de ski.
Oui,
de ski.
Bon, on a une belle température pour ça.
Ça achève, là, mais bon.
Ben, probablement dans les montagnes, c'est encore là pour un petit bout. Ça vaut la peine d'en parler.
Mm-hmm.
C'était un article, d'ailleurs, que j'ai trouvé dans la presse la semaine dernière, le 27 mars. C'était écrit par Marie Tison. Ça s'appelle « Skier malgré la cécité ». Ça commence par « Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la pente » qu'on ne peut pas la dévaler en ski alpin. Pour ma part, la voir, ça ne règle pas mon problème.
Non.
C'est quand même...
dit-il humblement. Un
beau défi.
Oui, ça reste un défi. D'accord. Alors, ne pas l'avoir, ça crée dans ma tête toutes sortes de difficultés. Depuis 25 ans, la Fondation des aveugles du Québec, la FAQ, organise des sorties de ski alpin pour des jeunes ayant une déficience visuelle. Certains sont carrément aveugles, d'autres ont une cécité partielle. Ce que j'aime vraiment, c'est que je me sens en sécurité dans ce sport-là, indique François Bellemare, étudiant de 21 ans. Ça me permet de bouger, de me dépasser, de me sentir libre et autonome dans un sport que je n'aurais jamais pensé faire autrement qu'avec la FAQ. Sabrina Tellier, étudiante de 19 ans, aime aussi dépenser son trop-plein d'énergie sur les pentes. Ça me permet de rencontrer des personnes qui ont le même handicap que moi, ajoute-t-elle. Ces sorties permettent de briser l'isolement, confirme Steve Joseph, directeur du service des loisirs à la Fondation. Si ce n'était pas de l'école, si ce n'était pas de nous, beaucoup de jeunes aveugles resteraient chez eux, affirme-t-il. C'est aussi une question d'intégration, de permettre à ces jeunes d'avoir accès aux activités que pratiquent les jeunes de leur âge. Pourquoi eux et pas nous? C'est vraiment ça, indique M. Joseph. Il existe des sports qui ont été créés spécifiquement pour les aveugles, comme le goalball, ou qui ont été adaptés comme le hockey sonore, j'en avais parlé d'ailleurs à ce micro ici. Le club de hockey sonore, les Hiboux de Montréal, je vous en avais parlé, existe d'ailleurs depuis 1978. Oui, puis il faudrait que je retourne d'ailleurs, j'avais parlé d'une rondelle avec des puces électroniques qui permettait de savoir où la hauteur, où était la rondelle dans les airs. Le ski alpin a toutefois un grand avantage. Avec un moniteur, tout le monde peut en faire, fait valoir M. Joseph. Bien sûr, chacun y va à son propre rythme. Chaque jeune est accompagné d'un moniteur ou d'un bénévole formé. Déjà dans l'autocar qui conduit le petit groupe au centre de ski, le moniteur jase avec son jeune pour mieux connaître son niveau de handicap.
Donc, c'est un ratio 1-1, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Oui, ils descendent ensemble.
Oui.
J'en ai vu à Beaumont.
C'est comme la course, d'ailleurs. Hein? Ouais, c'est le même principe. Oui. Nous n'avons pas seulement des aveugles, mais aussi des jeunes ayant une cécité partielle. Mais qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Et qu'est-ce qu'ils voient? Est-ce qu'ils voient la dénivellation? Est-ce qu'ils voient les bosses? Ou est-ce qu'ils ne voient qu'un tapis blanc? Ça dépend. François Bellemare a un bon champ de vision, mais ne perçoit pas les détails. Par exemple, je ne peux pas savoir si c'est un gars ou une fille qui est devant moi. Mais je dis toujours que ce qui est important, c'est d'être capable d'éviter la personne, pas de savoir si c'est un gars ou une fille.
Oui, c'est ça.
Ça dépend encore si tu veux créer des liens ou non.
Enfin, ça dépend si tu veux t'excuser à
oui,
une...
c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Sabrina Tellier ne voit pas de l'œil gauche et ne perçoit pas les contrastes. Les bosses, je ne les vois pas, raconte-t-elle. Parfois, la piste, je ne la vois pas. C'est pour ça que je dois faire confiance à mon moniteur. Je préfère qu'il soit devant moi. Je peux alors percevoir le dénivelé en le voyant par rapport à moi. Si le jeune est débutant, le moniteur lui demande de placer ses skis en chasse-neige ou en pointe de tarte pour prendre une figure de style plus facile à comprendre et de placer les bras dans la même position. En lui touchant la main gauche ou la main droite, le moniteur fait comprendre au jeune skieur sur quelle jambe il doit prendre appui pour prendre un virage. Lorsque le skieur est plus avancé, le moniteur n'a qu'à dire « hop » à chaque fois qu'il doit effectuer un virage. Le fait de dire « gauche » ou « droite » pourrait créer de la confusion. En 25 ans, la Fondation des aveugles a pu peaufiner ses techniques. Cette année toutefois, il y a eu du nouveau. Grâce à la Fondation des Canadiens de Montréal et à l'opération Enfant Soleil, le fonds José Lavigueur, les jeunes skieurs se sont vus remettre un équipement complet de ski alpin, ski, bâton, bottes et casque. On gagne 1h30 le matin comparativement à ce qu'on devait faire lorsqu'on faisait la location, nous dit toujours
oui.
M. Joseph.
Oui.
Il fallait essayer l'équipement, les bottes ne faisaient pas, il fallait retourner, ça aide énormément. Ces dons ont également permis de réduire sérieusement le coût de l'activité. La Fondation des aveugles profite de quelques-unes de ces sorties pour se faire connaître auprès de la population en général en organisant une activité t'as rien vu. Le principe est simple. En échange d'un petit don, un voyant peut mettre un casque spécial et faire une courte descente à l'aveuglette.
OK. Laissez faire.
Moi, je pense que je vais juste faire le don. Si les skieurs s'en sortent, les planchistes ont vraiment des difficultés à garder leur équilibre. Ce n'est pas évident, même pour nos jeunes, dit M. Joseph. Nous en avons 5 ou 6 qui ont commencé la planche à neige. Il y a le ballon. Tu ne peux pas juste rester debout comme en ski. Tu dois t'asseoir ou le moniteur doit te tenir les mains. Pour 2019, la Fondation des aveugles prévoit un grand coup, une sortie de ski dans les Alpes françaises, rien de moins.
Wow, quelle chance!
Sabrina Tellier sera du voyage. Je suis tellement contente. J'ai ressorti mes skis cet hiver pour être sûre d'avoir le niveau. La Fondation continue à organiser d'autres activités, notamment un camp de la relâche et un camp d'été. Les activités physiques se succèdent et les jeunes dépensent une grande quantité d'énergie. Lorsqu'ils rentrent à la maison, ils sont vannés. Les parents nous aiment beaucoup, nous dit toujours Steve Joseph. Alors, c'était dans l'article « Skier malgré la cécité » de Marie Tison dans la presse du 27 mars.
Bravo! Alors, une petite capsule linguistique.
Alors, de Guy Bertrand, toujours.
Oui.
Lorsqu'on dit qu'on a de la peine à joindre les deux bouts, de quel bout s'agit-il?
Quand on est pris là-dedans, on se pose pas la question.
On se pose pas la question, hein? Ben, les deux bouts dont il est question dans l'expression populaire « avoir de la peine à joindre les deux bouts » sont en réalité les deux bouts de l'année.
Ah oui.
À l'origine, oui. L'expression signifiait être capable de payer les dépenses de l'année,
oui.
D'un bout à l'autre de l'année.
Ah,
voilà.
Okay. Oh, merci. Ah.
Alors, j'aimerais féliciter la maison d'édition 2, maison d'édition Cherbourgoise, qui est toute jeune, qui a 2 ans. Et ça ne l'empêche pas, donc même si elle est jeune, de jouer dans la cour des grands. La boîte cherbourgoise s'est illustrée à l'international en mars dernier en remportant le prix 2018 du meilleur éditeur jeunesse d'Amérique du Nord au 50e Bologna Children's Book Fair qui se déroulait en Italie. Alors mm-hmm. Bravo, la maison d'édition 2. Wow.
Alors, est-ce que vous prévoyez un voyage dans le sud? Je ne parle pas de Longueuil ici.
Ben, allons-y.
En Amérique du Sud, par exemple. Emmenez un vélo fourni par Cyclo Nord-Sud et utilisez-le pendant votre séjour. Avant de prendre votre avion de retour, laissez-le à une personne qui en bénéficiera sur place.
Hmm. C'est pratique.
C'est très pratique et utile. Monique?
Oui, vous connaissez Barbe Noire?
Pas ouais. Personnellement.
C'est un pirate anglais hein, qui a péri sur son navire en 1718. Alors, après 300 ans sous la mer, 16 bouts de papier étaient miraculeusement conservés dans l'épave du navire du pirate Barbe Noire. Des conservateurs du Carr Conservation Lab à Granville aux États-Unis ont révélé qu'il s'agit de fragments du livre « Voyage à la mer du Sud » d'Edward Cook. Ce récit décrit l'expédition de Wood Rogers et le sauvetage d'Alexander Selkirk qui a inspiré Robinson Crusoe.
Ah,
oh,
rien de moins.
Monsieur Deslauriers.
Alors, dans la revue Vélomag de ce mois-ci, on souligne un événement par rapport à la réussite scolaire grâce à l'homme d'affaires Raymond Mallette qui a contribué à l'achat d'une 30aine de vélos pupitres, j'ai déjà parlé de ce concept-là auparavant, installés dans les écoles primaires d'une partie de la région de Lanaudière. En pédalant même légèrement, les élèves ont plus de facilité à maintenir leur attention sur l'enseignement qui leur est prodigué.
Mmh. Alors, parlant de partie du corps, tiens, utile au vélo, le genou, partie du corps où se trouve le coude des jambes. C'était un mot d'enfant. Et on termine avec ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Mathieu pour les liens musicaux tout à fait pertinents, la mise en onde. Merci, chers collaborateurs.
Ce fut un plaisir.
Merci à vous. Merci à vous, auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Bonne fin de journée et bonne semaine.